Mon amie syrienne, elle s'appelle Ant, m'a raconté d'où elle vient. Un récit en 4 épisodes. Deuxième partie, la prison. Ant a été emprisonnée 2 fois. La première fois en 1982, elle a 26 ans, elle y est restée 9 mois. Moins d'un an après sa libération, en 1984, elle est de nouveau arrêtée et ne sort de prison que 8 ans plus tard. Elle a alors 35 ans. Elle est mariée à Farouk depuis 2 ans. Farouk est maintenant un des leaders du parti. Il est recherché par les services de sécurité du régime et vit dans la clandestinité. Ant, se sachant surveillée, doit user de précautions infinies pour le rejoindre dans les endroits où il se cache, le plus souvent chez des amis qui habitent en dehors de la capitale. Ant mène en apparence une vie quotidienne normale. Elle vit chez ses parents et chaque jour elle se rend à son travail. Mais dans son sac, elle a toujours une brosse à dents et des vêtements de rechange pour rejoindre Farouk là où il se trouve. C'est stressant de se déplacer sans cesse d'un appartement à l'autre en usant de l'hospitalité de leurs amis. Sa sœur lui propose alors d'utiliser un appartement dont elle est propriétaire, situé à l'écart du centre de Damas. Ant ne parle à personne de cet appartement et continue à habiter chez ses parents, mais elle peut enfin retrouver Farouk dans un endroit stable. Bientôt, l'appartement sera aussi utilisé par les leaders du parti pour y tenir leurs réunions. Quand elles ont lieu, pour ne pas les mettre en danger, Ant ne s'y rend pas. Un jour où Ant se trouve à Homs chez des amis, ils lui apprennent que sa mère vient d'être arrêtée. Il était recherché depuis 14 ans par les services secrets, car il tient un rôle important dans le parti, sans en être le chef. Il n'y a pas de chef dans ce parti. En apprenant la nouvelle, Anne prend peur, car Samir venait dans l'appartement de sa sœur pour y rencontrer les autres leaders. Elle se demande si ce n'est pas risqué de rentrer. Mais les gens du parti la rassurent en lui disant qu'il n'y a pas de danger, car elle n'a pas mené d'action politique. Elle rentre donc chez ses parents passer la première nuit. La deuxième nuit, elle la passe dans l'appartement de sa sœur. À la troisième nuit, les gens du parti lui conseillent d'être accompagnée quand elles seront à l'appartement, afin d'être prévenue si elle se fait arrêter. Elle est donc dans l'appartement avec la femme d'un membre du groupe lorsqu'à 23h, on sonne à la porte. Avec Farouk, ils avaient convenu d'un signal. En cas de danger, Anne devait enlever le sac en plastique noir accroché au balcon. Elle se précipite sur le balcon pour enlever le sac, puis regarde par le judas de la porte. Elle reconnaît le général qui dirige le service de renseignement où elle avait été détenue 1 an auparavant. Les militaires entrent dans l'appartement. Ils crient, fouillent, jettent à terre les objets et les meubles. Tout l'immeuble résonne de leur violence. L'un lui dit de prendre un sac de vêtements. Ant refuse en disant qu'elle n'a rien à se reprocher. Les 2 femmes sont arrêtées, conduites au centre d'interrogatoire que Ant connaît bien pour y avoir été emprisonnée pendant 9 mois. Elle demande à la femme de dire aux camarades qu'elle est détenue par la sécurité militaire afin qu'ils sachent dans quelle unité elle se trouve. Le régime a organisé les services de renseignement en différentes unités qui ne communiquent pas entre elles et même se livrent à une sorte de concurrence. Lorsqu'un prisonnier meurt sous la torture, l'unité ne transmet pas l'information aux autres unités. Ça rend le système complètement opaque et efface la trace des gens qui sont arrêtés. Il est 23h45. Dès son arrivée dans le service de renseignement, elle est conduite à la salle d'interrogatoire. Elle n'a pas les yeux bandés, elle les voit. Elle reconnaît les sous-officiers qui appellent leur chef. Lui aussi, elle le connaît. C'est lui qui, au sortir de son premier emprisonnement, avait tenté de retourner N pour en faire un de leurs agents de renseignement. D'habitude, il ne vient pas dans la salle d'interrogatoire. Il lui dit « Tu vois, tu n'as pas été longue à revenir. Et si tu savais qui est entre nos mains ?» N sait qu'il lui parle de Samir, mais elle lui répond « Qui est-ce ? Mon mari ?»« Non, on s'en fout de ton mari. C'est quelqu'un de beaucoup plus important. » Allez, maintenant on y va. Tu connais le chemin, tu peux y aller toute seule. Puis il appelle les autres militaires en leur disant « Tenez, c'est Ant la menteuse. Je vous la donne en chair. Vous me la rendrez en os. » Et il commence immédiatement à la torturer. Il leur faut faire vite pour avoir des informations sur les dates et les lieux de rendez-vous et arrêter les militants avant que la nouvelle de son arrestation ne se propage. Ant avait effectivement rendez-vous avec un autre leader, Akram, rendez-vous qui devait avoir lieu 5 jours après son arrestation. Il lui faut tenir, au moins ces 5 jours. Mais Samir a donné l'information. Ses tortionnaires savent qu'elle a rendez-vous avec Akram, mais sans en connaître les détails, et ils veulent absolument les obtenir. Pour ça, ils les maintiennent jour et nuit dans la salle d'interrogatoire. Ils la torturent sans répit. Ses pieds sont en sang, terriblement gonflés d'avoir été frappés avec des câbles électriques. Pour accentuer la douleur, ils la mettent sous la douche et répandent du sel et de l'eau sur le sol. Anthony, attendant qu'arrive le 5e jour. Soudain, elle aperçoit Samir, amené devant elle pour une confrontation. Dès qu'elle le voit arriver au bout de la salle, Ant crie « Je ne connais pas ce type !» pour qu'il sache qu'elle nie. Le militaire hurle « Qui t'a autorisé à parler ?» et il la frappe avec une telle violence qu'elle est projetée jusqu'aux pieds de Samir. Elle est tellement épuisée qu'elle n'a pas la force de se relever. Ce sont les militaires qui la soulèvent par les bras pour la mettre debout. Samir dit « Je la connais, c'est Ant » et il donne aussi son nom de famille. « Comment se fait-il qu'il te connaît ?»« Je ne sais pas, Farouk a dû lui parler de moi. Je ne le connais pas, c'est un menteur. » Mais Samir dit que tu as rendez-vous avec Akram. « Je ne sais pas de quoi il parle, je ne connais pas Akram. » Les techniques de torture sont les mêmes que celles qu'elle a subies il y a un an, toujours avec un bandeau sur les yeux. Le pneu. Le corps est coincé dans un pneu suspendu. Les bourreaux frappent avec des câbles électriques sur tout ce qui dépasse. Pieds, mains, hanches. La chaise allemande. Le corps est coincé entre 2 planches en bois sur lesquelles on force jusqu'à casser le dos. L'électricité. Sur les mains, les pieds, les oreilles. Les femmes des frères musulmans subissent des tortures spécifiques. Elles sont entièrement dénudées, sachant que c'est un des pires outrages qu'on puisse faire à une femme musulmane, et on les torture à l'électricité sur les seins, devant les yeux de leur mari, de leur frère ou de leur fils. Pour les hommes, ils emploient d'autres méthodes. Les bourreaux cassent du verre par terre, attachent un poids autour de leur partie génitale et les obligent à s'asseoir sur les tessons de bouteille. Les tortures ont évolué depuis sa première arrestation. À ce moment-là, les militaires n'avaient pas encore d'expérience, mais ils l'ont acquise pendant la répression des frères musulmans, qui a culminé avec le massacre de la ville de Hama en 1982. Un an après, elle voit qu'ils se sont entraînés, qu'ils sont devenus des experts, en employant des méthodes inimaginables. Elle a tenu. Elle a tenu durant les 5 jours. Au bout de ces 5 jours, elles se sont soulagées de ne pas avoir ouvert cette porte qui aurait entraîné une cascade d'arrestations. Mais les tortures n'ont pas cessé, ininterrompues pendant 17 jours, jour et nuit, dans 7 jours sans sortir de la salle d'interrogatoire. Au bout de 7 jours, le chef, qu'elle reconnaît à sa voix, ordonne « Vous l'emmenez au cachot et vous l'empêchez de dormir. » Le cachot est au sous-sol, il est plein d'eau, il fait très froid, elle n'a pas de couverture et régulièrement les gardiens viennent l'asperger d'eau pour l'empêcher de dormir. Elle est torturée tous les jours, sauf pendant la pause déjeuner. À 18h, les tortionnaires reviennent et ils torturent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Des journées entières de torture, sauf pendant les quelques heures où les bourreaux déjeunent. Dans ce centre de renseignement, il y a deux catégories de militaires. Ceux qui sont engagés et les appelés, ceux qui font leur service militaire. Les engagés sont très violents, les appelés le sont moins. Un jour où elle est accroupie tout au bout du cachot pour être moins aspergée d'eau, à 2h du matin arrive un appelé. Il est seul, ce qui est exceptionnel. Quand il voit dans quel état se trouve Hent, il l'emmène dans une autre cellule. Il lui donne une couverture et ce qui tient lieu de matelas, un matériau en plastique qui sert d'isolation pour les murs. Il est révolté de voir le degré de cruauté de ses collègues. Dans la cellule, il lui dit « Tu as 3 heures pour dormir, le temps de mon service. » Quand il revient la chercher, Hent a l'impression de n'avoir dormi qu'une minute, mais elle a envie de l'embrasser pour le remercier de ce répit, pour la joie d'avoir enfin rencontré quelqu'un d'humain dans cet enfer. Quand les militaires qui la torturent la ramènent dans sa cellule, elle leur demande comment ils arrivent à prendre leurs enfants dans leurs bras, en faisant ce qu'ils lui font. Ce sont eux qui font le sale boulot. Le chef est seulement là pour leur dire « Allez-y, tapez-la ». Il est convaincu qu'elle est engagée dans le parti, puisque Samir le dit. Mais elle nie toujours. Elle sait qu'une fois son engagement reconnu, elle n'aura plus le choix. Il lui faudra donner des informations sur l'organisation du réseau, sur la communication entre ses membres, enfin dénoncer tout le monde. Alors elle refuse, obstinément, de signer le papier reconnaissant son engagement dans le parti. Comment a-t-elle tenu? Les 2 premiers jours ont été le sommet de la violence, car Hent ne pense qu'à la souffrance de sa mère. Sa mère allait apprendre son arrestation le jour même de la fête des mères. Dans sa famille, c'est un événement qui se fait en grand, avec repas, fleurs et cadeaux. Et cette année, comme l'année précédente, Hent ne sera pas là. Hent est en prison et sa mère en aura le cœur brisé. Elle est tellement obsédée par le chagrin de sa mère qu'elle n'attend pas le coup qui va arriver, qu'elle ne le ressent pas quand il s'abat sur elle. Et puis elle a tenu en pensant à Akram, à ses camarades. Elle ne veut pas qu'ils subissent ce qu'elle est en train de subir. Surtout que le mal ne passe pas par elle. Et il y a la relation avec le bourreau. C'est un rapport de force. Résister, c'est lui dire « Regarde, malgré toute la violence que tu exerces sur moi, c'est moi la plus forte. Tu n'obtiendras rien de moi. » Elle remarque que sa résistance force le respect des tortionnaires, alors qu'il méprise ceux qui donnent les informations. Samir a été marqué à jamais par sa confrontation avec Hent dans la salle de torture. Il lui a écrit pour dire sa honte de l'avoir dénoncé alors qu'elle ne cessait de nier, pour lui dire qu'il n'a été allégé de ce poids terrible qu'à la libération de Hent. Depuis, chaque fois qu'ils se rencontrent, Samir lève son verre en hommage au courage de Hent. Après ces 17 jours sans répit, les séances de torture se sont poursuivies, mais se sont espacées. On l'emmène à l'interrogatoire tous les 2 jours. Puis au bout de 5 mois, les tortures cessent. La pratique était de garder les militants dans le centre de renseignement, même après leurs aveux. Certains de ses amis y sont restés 4 ans. À partir de 1982, ils ont commencé à transférer les hommes dans la sinistre prison de Tadmor, à côté de Palmyre. Raed, le mari actuel de Hent, a été emprisonné pendant 4 ans à Palmyre. En 1987, la prison de Palmyre ne pouvant plus contenir le nombre croissant de prisonniers politiques. Le régime a construit la prison de Sednaya aux environs de Damas, où Raed a été emprisonné pendant encore 4 ans. Hent est détenue depuis 8 mois quand elle est amenée devant le chef du centre de renseignement. Il lui annonce qu'ils vont la transférer dans une prison civile, que ses copains ont déjà été transférés dans la prison de Palmyre. Hent pense que c'est du bluff. Ce n'est pas dans leurs habitudes de transférer les communistes à Palmyre. Et jusqu'à présent, aucune femme communiste n'avait été transférée dans une prison civile. Le chef lui dit, on va te mettre avec les putes pour que tu sois avec le prolétariat. Elle croit qu'il fait son numéro avant de la relâcher, parce que le régime n'a pas pour habitude de mélanger les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun, ceux qui ont été arrêtés pour drogue, prostitution ou meurtre. C'est au moment où lui mettent le bandeau sur les yeux, en lui disant de prendre ses affaires, qu'elle comprend que ce n'est pas du bluff. Dans le fourgon, les militaires lui disent d'enlever son bandeau. Elle est éblouie, 8 mois sans voir la lumière du jour, 8 mois passés dans le noir et la solitude. Mais elle n'arrive pas à profiter du ciel, des arbres, du visage des passants, des enfants en tenue d'école. Elle tremble de peur à l'idée de ce qui l'attend. Elle se rappelle de ses lectures sur le monde sordide des criminels. Elle est terrifiée d'être jetée dans ce monde-là. Arrivée à la prison, les militaires la livrent comme une marchandise aux gardiens. C'est le mois d'août. Comme elle a été arrêtée en hiver, elle porte un pantalon de feutre et un manteau. Elle est blême et hirsute. Tout ce qu'elle a, c'est un sac qui contient une serviette, des cigarettes et 2 boîtes en plastique où on lui servait à boire et à manger. Les gardiens ouvrent une porte qui donne sur une cour. C'est le moment de la promenade. La cour est pleine de femmes qui s'approchent aussitôt d'elle. « Qui tu es ? Tu as l'air d'être une politique. Moi, je suis prostituée. Moi, je suis meurte. Moi, je suis... » Anne se sent submergée. Elle recule jusqu'au mur en tenant son sac serré contre elle, comme une protection face aux envahisseuses. Devant sa panique, les femmes lui apportent une chaise, un verre d'eau, mais Anne se sent tellement terrifiée qu'elle n'y prête pas attention. Elle entend alors des voix venant d'une cellule collective, des voix criant « Il ne nous manquait plus que ça, une mécréante !» Ces voix sont celles des sœurs musulmanes. En prison comme à l'extérieur, elle refuse d'être mêlée à d'autres. C'est dans cette cellule que Hent est jetée par le geôlier avec un matelas. Dans cette cellule, il y a 15 de femmes. Chacune s'est approprié un coin, avec son matelas et ses affaires personnelles. Dans le coin cuisine, chacune a aussi disposé ses cartons de nourriture. Anne se retrouve à l'écart, sur un matelas près de la porte, éloignée des autres femmes qui marquent leur hostilité par une expression de dégoût. La première nuit, Anne ne dort pas. Elle revoit alors les gestes de compassion que lui ont manifestés les prisonnières de droit commun. Demain, elle ira les remercier. Le lendemain, c'est une prisonnière de droit commun qui l'initie aux gestes du quotidien, qui lui montre comment chauffer l'eau pour se laver. C'est aussi grâce à une prisonnière de droit commun qu'elle peut faire passer un message à ses parents, pour qu'ils sachent où elle se trouve. Les seuls gestes de bienveillance viennent de ces femmes, prostituées, droguées, meurtrières, ces femmes considérées comme la pire engeance de la société, ces femmes que Hent appelle les femmes des livres. Dans cette prison civile, les femmes payent les gardiens pour qu'ils achètent ce dont elles ont besoin, surtout celles qui viennent de villes éloignées ou celles qui sont rejetées par leur famille. Heureusement, la famille de Hent vient la visiter chaque semaine et grâce à elle, Hent peut rendre service aux femmes interdites de visite, comme les sœurs musulmanes. Et petit à petit, jour après jour, Hent réussit à gagner leur confiance. Elles s'aperçoivent que Hent respecte leur rituel, au moment de la prière ou pendant le ramadan. Même si Hent ne jeûne pas, elle se tient éveillée la nuit. Alors certaines commencent à l'inviter à partager leur repas. La leader du groupe est une femme médecin, mais la plupart de ces femmes ne sont pas instruites. Elles ne sont pas emprisonnées du fait de leur engagement personnel, mais parce qu'elles sont la femme, la mère ou la sœur d'un frère musulman. Un jour, Hent s'adresse à elles en leur disant qu'aucune n'a choisi d'être là, qu'elles sont toutes victimes du même régime, qu'elle a donc les mêmes droits que ces femmes dans l'organisation de la vie commune. Elle obtient que son matelas soit placé dans l'espace commun, que ses cartons rejoignent les autres dans le coin cuisine. Elle obtient aussi que l'extinction de la lumière soit décidée collectivement et non pas arbitrairement au moment où il est en train de lire. Un jour, une des femmes lui dit « Tu es quelqu'un de bien ». On veut te sauver de l'enfer. Viens faire tes ablutions et prier avec nous. » Anne s'est alors adressée à toutes, en leur disant qu'elle respecte leurs convictions et qu'elle exige donc la même chose en retour. Plus jamais les sœurs musulmanes n'ont tenté de la convertir ou même blagué comme elles le faisaient en lui disant « C'est vraiment trop triste que tu sois communiste ». Les classes sociales ne disparaissent pas en prison, loin de là. Les sœurs musulmanes méprisent les prisonnières de droit commun. Certaines utilisent même les plus démunies de ces femmes comme servantes. Anne se fait une amie, une véritable amie, Tourfa. Tourfa ne sait ni lire ni écrire. Tourfa est chrétienne. Tourfa pleure dans une autre cellule où elle est soumise au mauvais traitement des sœurs musulmanes. Elles deviennent très proches lorsque les femmes obtiennent du directeur d'avoir une douche et une cuisine collective, ce qui entraîne l'ouverture en permanence des cellules pour pouvoir cuisiner et se laver à tour de rôle. Tourfa se révèle à ce moment-là. Elle met au service de l'espace commun ses savoir-faire pratiques tout autant que ses grandes qualités humaines. Ent et Tourfa cimentent en prison une amitié indestructible. Jusqu'à aujourd'hui, malgré la distance géographique qui les sépare, elles ne cessent de se parler. En prison, Ent lit beaucoup. Sa famille et ses amis lui font passer des livres à sa demande. Elle dévore les œuvres littéraires comme celle de Kafka. Elle se forme en philosophie ou en économie. Elle rédige des notes de lecture, des commentaires. Elle écrit beaucoup. Elle écrit à ses amis et bien sûr à Farouk, qui vit toujours dans la clandestinité et lui fait passer des lettres, des poèmes, des cadeaux. Au début, tout ce qu'elle reçoit de Farouk la met en joie. Mais petit à petit, le tourment succède à la joie. Que peut offrir une femme emprisonnée à un homme libre ? Ent ne veut pas être réduite à une figure d'héroïne à laquelle son bien-aimé rend hommage. Ent cesse dans un premier temps de répondre aux lettres de Farouk. Puis, devant son insistance, elle lui écrit qu'elle le considère désormais comme un ami et non plus comme un amour. Deux semaines après avoir reçu la lettre, Farouk est arrêté. Après cette rupture, Ent ressent un grand vide affectif, d'autant plus que les visites de sa famille s'espacent car le régime endurcit les conditions. Elle ne les voit plus que 3 ou 4 fois par an. Privée d'affection, Ent s'invente alors un amoureux virtuel avec lequel elle parle la nuit. Elle lui confie tout de ses sentiments et de ses pensées, tout ce qu'elle ne peut confier à personne. Parfois, les services de renseignement reviennent l'interroger en prison parce que quelqu'un a donné son nom sous la torture. Maintenant, elle se sent libre de dire ce qu'elle pense. Elle ne risque plus rien. En prison, elle y est. Elle n'a plus peur d'y aller. Elle dit ce qu'elle pense des méfaits du régime. Elle dénonce sa corruption. Elle revendique son combat pour la liberté. Elle parle enfin sans peser ses mots. Alors qu'elle est privée de liberté, elle trouve ici, en prison, une liberté de parole qu'elle n'a jamais eue. Elle ne cache plus rien. En prison, tu es 24 heures sur 24 avec d'autres. Ça demande beaucoup trop d'énergie de cacher durant des mois, des années. C'est impossible de cacher qui tu es. La prison, c'est le prix exorbitant qu'elle paye pour ses convictions. Alors elle les exprime sans détour. « Oui, je suis communiste. Tout le monde dehors sait que je suis communiste. Pourquoi est-ce que je vais le cacher ?» En prison, elle s'affranchit de l'hypocrisie. Elle se libère du regard des autres. En prison, elle apprend tout. Elle apprend à travailler de ses mains, à fabriquer des colliers avec des noyaux d'olive. Elle découvre le plaisir de faire avec ce qu'on a en soi, autour de soi, sans rien qui vienne de l'extérieur. Dans cette mise à nu qu'est la prison, le dénuement même devient matière à transformation. Les noyaux d'olive deviennent colliers. Les préjugés sociaux cèdent la place aux relations par affinité. La surveillance de soi s'éteint pour éclairer le territoire de l'intériorité. À sa sortie de prison, c'est une autre femme qui rejoint sa famille, son travail, ses amis. En prison, entourée en permanence de dizaines de personnes, elle rêvait d'un espace à elle, rien qu'à elle, et elle le fait. Elle prend un appartement où elle vit seule. Sa famille désapprouve, comme elle désapprouve la position libérale de Ent sur les relations hors mariage. Mais sa famille accepte Ent telle qu'elle est aujourd'hui, libre de sa parole et de ses décisions. Hent s'aperçoit même que sa parole a un effet libérateur pour son entourage. Elle montre qu'il est possible de dire vraiment ce qu'on pense. Au travail, elle refuse de participer, comme le font l'ensemble des fonctionnaires, aux activités imposées par le régime, comme les marches dites « spontanées ». Hent vient d'être emprisonné 9 ans pour ses convictions. Plus rien ne l'empêchera dorénavant de dire ce qu'elle pense, de vivre comme elle le décide.
Syrienne. Un feuilleton réalisé à partir d'une idée de Franck Millet. Témoignage, Hent Al-Khawaji. Traduction, Lina Ayoubi et Nada Issa. Texte, Pascal Puechavi. Création sonore, montage et mixage, Laurent Grapp. Réalisation, Pascal Puechavi.